Il est 8h bien tassé. Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. Une coalition chasse l'autre en Italie. L'accord passé entre le mouvement 5 étoiles et le parti démocrate à la une ce matin. On se dirige vers un gouvernement de gauche à Rome qui vient dynamiter la stratégie de Matteo Salvini. Nous serons sur place dans un instant. Plus d'un million de signatures contre le coup de force de Boris Johnson à Londres. La Grande-Bretagne en ébullition depuis hier. Dans ce journal aussi, 300 euros de plus pour les profs. Ça n'est pas un cadeau de Jean-Michel Blanquer, mais de François Hollande. La taxe foncière qui augmente pour de nombreux propriétaires avant un nouveau calcul pour tout le monde. Le combat d'un ancien rugbyman contre les violences sexuelles dans le sport. Et puis un historien écrivain à votre micro dans 20 minutes.
Oui, il s'agit, Florence, d'Ivan Jablonka. Il publie « Des hommes justes », sous-titre « Du patriarcat aux nouvelles masculinités ». C'est aux éditions du Seuil. Il est donc l'invité du grand entretien de la matinale. Intervenez, dialoguez avec lui, 01 45 24 7000, réseaux sociaux et applications mobiles de France Inter.
Et nous serons aussi en bonne compagnie sur la plage du Lido à Venise, avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche en ouverture de la Mostra.
France Inter.
En Italie, et pericoloso sporgersi, comme on lisait dans les trains autrefois. Il est périlleux de se pencher à l'extérieur. Ça marche aussi quand on se penche pour faire tomber son gouvernement. Matteo Salvini est en train de l'apprendre à ses dépens, qui a fait sauter sa coalition il y a 3 semaines et qui assiste impuissant au nouvel attelage improbable en formation à Rome. Ses anciens alliés du mouvement 5 étoiles avec ses ennemis jurés du Parti démocrate de centre-gauche. Le tout dirigé, a priori, par le même Premier ministre Giuseppe Conte, qui devrait être reconduit ce matin. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous êtes à Turin pour France Inter, Isabelle. Paris perdu pour le patron de l'extrême droite, le patron de la Ligue et ancien homme fort du gouvernement, Matteo Salvini, tablait sur des élections anticipées.
Oui, mais il n'avait pas prévu que les 5 étoiles et les démocrates réussiraient à surmonter leurs divergences. Et il a quand même tout fait pour rester dans la course, court-circuiter cette alliance, en proposant en sous-main à Luigi Di Maio, le patron du mouvement anti-système, de refaire leur coalition et de lui céder sa place de Premier ministre. Di Maio n'a pas accepté. Aujourd'hui, Matteo Salvini charge sa cible favorite, le Parti démocrate, passé de l'opposition à la majorité sans avoir gagné aucun scrutin.
Des millions d'électeurs sont en train de se demander à quoi sert leur vote si ceux qu'ils ont jetés par la porte reviennent par la fenêtre. Ça ne serait pas plus sage, plus honnête de faire voter les Italiens pour avoir une majorité solide, stable pour 5 ans. La vérité, c'est que 60 millions d'Italiens sont pris en otage par 100 parlementaires agrippés à leur fauteuil.
Ceux qui fuient le verdict des urnes ne peuvent pas fuir indéfiniment, dit encore Matteo Salvini. Et si nous ne gagnons pas dans 2 mois, eh bien nous gagnerons dans 6 mois ou 1 an. Nous ne sommes pas pressés.
Alors voilà pour le perdant Salvini. Mais il y a un gagnant dans cette histoire, c'est Giuseppe Conte qui reste à son poste de Premier ministre.
Oui, cet universitaire un peu fallot, novice en politique, n'avait pas fait beaucoup d'étincelles à son poste jusqu'à ce qu'il devienne le premier opposant aux dérives droitières de Matteo Salvini. Cette crise l'a fait passer du statut de Mr. Nobody à Monsieur Conte. Il est celui qui a puni les vantards, titre ce matin le quotidien La Repubblica, l'homme de la mesure et de la stabilité dont le pays a plus que jamais besoin.
Isabelle Labéry, envoyée spéciale à Turin pour France Inter. Au Royaume-Uni, la stratégie de Boris Johnson va-t-elle aussi se retourner contre lui? Le Premier ministre a décidé hier de suspendre le Parlement pendant 5 semaines pour empêcher les députés de s'opposer à un Brexit dur le 31 octobre, s'attirant les foudres de ses opposants et d'une partie des Britanniques. Ils étaient des milliers dans les rues des grandes villes hier soir contre ce qu'ils appellent un coup d'État. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus d'1 100 000 signatures. Pierre Aski analyse la situation juste après ce journal. Et puis toujours à l'étranger, la bande de Gaza en état d'alerte depuis hier soir après 2 attentats suicides qui ont tué 3 policiers palestiniens la veille. Et ce sont les salafistes qui sont pointés du doigt par le Hamas, comprendre des groupes radicaux s'inspirant du groupe État islamique.
Il est 8h05 en France, Florence. Les profs gagneront 300 euros de plus l'an prochain.
C'est une moyenne annoncée hier par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer qui avait en réalité été négociée sous François Hollande, d'où la réaction plus que mesurée de Frédéric Rollet, la secrétaire nationale du SNES-FSU, syndicat des enseignants du second degré.
C'est une annonce qui sent un peu le réchauffer parce que le ministre l'avait déjà dit. Il s'agit en fait des effets du protocole sur les rémunérations et les carrières qui a été négocié par les organisations syndicales et le gouvernement précédent. La seule chose que fait ce gouvernement, c'est de financer une des dernières mesures qui va aboutir à ce qu'effectivement il y ait une moyenne d'un gain de 300 euros. Mais si on rapporte ça à l'inflation et au fait qu'à la fonction publique, le point d'indice dont la valeur a été gelée jusqu'en 2015 et puis de nouveau à partir de 2018, il ne s'agit pas véritablement d'une revalorisation. On sent qu'on sait la rentrée et qu'il faut avoir l'air de donner un peu de baume pour panser les plaies du printemps et de l'été dernier. Mais c'est pas ça qui va être de nature véritablement à rassurer les collègues.
Frédéric Rollet du SNES-FSU, jointe partie Beau-Lefèvre. Allô les impôts, pourquoi ma taxe foncière a-t-elle tant augmenté dans certaines régions? Des propriétaires ont reçu cet été une lettre leur apprenant qu'ils allaient payer plus cher en raison de l'amélioration du confort de leur logement. Ça sachant que la valeur des biens immobiliers n'a pas été réévaluée en France depuis 1970 et que le gouvernement s'apprête à le faire l'an prochain, l'Union nationale des propriétaires s'inquiète. Delphine Simon.
C'est un courrier type du Centre des impôts fonciers qui a effrayé cet été de nombreux propriétaires. Le fisc réévalue à la hausse la valeur de leur logement, raison à invoquer des travaux, électricité, chauffage, sanitaire, ce que les propriétaires de bonne ou de mauvaise foi omettent souvent de déclarer. Une réévaluation habituelle, en général au cas par cas, mais cette fois-ci particulièrement massive, notamment en région Rhône-Alpes, confirme Christophe Demerson, qui a reçu de nombreux courriers à l'Union des propriétaires immobiliers.
J'avais quelqu'un qui avait deux biens. Le premier bien, il y avait 16,4% d'augmentation et le deuxième bien, il y avait 21% d'augmentation des bases. On leur explique comme si c'était une certitude qu'il y a eu des travaux d'amélioration qui font que ces bases doivent augmenter. Alors dans les cas présents où on nous sollicite, il n'y a pas eu de travaux de fait.
À la clé, une hausse de leur prochaine taxe foncière. C'est vrai qu'en Isère, les agents du fisc ont mis les bouchées doubles cet été pour rattraper un certain retard, confirme Bercy, qui parle d'une décision locale. En cas de litige, on peut d'ailleurs toujours contester, rappelle l'Union des propriétaires.
Conseille aux adhérents déjà d'écrire ou de prendre attache avec les services qui leur ont écrit pour savoir sur quoi ils se basent pour faire ça.
Quant à la révision générale des valeurs des logements annoncé par Bercy, le gouvernement lancera les premières bases de la réforme lors du prochain projet de budget.
Et on reste aux impôts. Côté défiscalisation, cette fois revue à la baisse pour les entreprises mécènes dont les dons sont supérieurs à 2 millions d'euros. Le chèque de l'État passera de 60 à 40%, annonce ce matin le secrétaire d'État Gabriel Attal dans Les Échos, à l'exception des dons aux plus démunis.
Il est 8h08, leurs bêtes, Florence, se font croquer par le loup.
Les éleveurs parlent de 600 brebis tuées depuis le début de la transhumance dans les alpages. Alors ils sont une centaine à bloquer la préfecture des Hautes-Alpes à Gap depuis lundi pour demander de pouvoir tirer sur les loups partout où ils attaquent, y compris dans le parc national des Écrins où c'est interdit.
L'incompatibilité, le pastoralisme avec du loup. Enfin, c'est à peu près comme si on met un renard dans un poulailler. Expliquez-moi comment le renard va regarder les poules et pas les manger. Aujourd'hui, le seul problème qu'il y a, c'est que les écologistes ont eu, je le dis, trop de pouvoir pendant des années. Et pendant qu'on faisait des réunions depuis maintenant 20 ans, eh bien, les loups faisaient des petits. Et on se trouve aujourd'hui dans une situation où il y a des quantités de loups. Aujourd'hui, on est dépassé par les événements. Quand on a des animaux qu'il faut les saigner parce qu'ils sont perdus et ils ont les trachées artères ouvertes, qui respirent. Je crois que les gens qui sont au ministère, il faudrait qu'ils viennent faire un stage pour voir ce qu'il en est, parce qu'ils sont déconnectés complètement de la réalité. La vraie biodiversité dont on nous fait tant de leçons, qui c'est qui la produit? C'est les paysans et c'est les éleveurs. Voilà la biodiversité où elle est.
Et voilà le coup de gueule de cet éleveur des Hautes-Alpes au micro d'Olivier Martoc. Parti d'Angleterre il y a 15 jours, Greta Thunberg est arrivée à New York hier soir, où se tiendra dans moins d'un mois un sommet sur le climat. Visage mondial du combat pour la planète, la jeune fille appelle Donald Trump à écouter la science et à cesser de détruire la nature. Quelques centaines de New-Yorkais s'étaient déplacés pour l'accueillir. Eux vont faire leur rentrée dans une école construite pour faire moins de mal à la planète. Une école en terre crue à Nanterre. Parce que moins de béton, c'est moins de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Et parce que la terre, c'est plus naturel, évidemment. Reportage signé Sandy Dauphin.
Dans cette classe maternelle du nouveau groupe scolaire Myriam Makeba, le mur du fond ressemble à de la boue séchée mélangée avec des graviers. Et c'est normal, explique Xavier Houzel de la direction de l'architecture de la ville de Nanterre.
C'est vraiment que de la terre qui est compactée très très fortement pour pouvoir donner cet aspect très dur. au toucher. Et on conserve, en ne mettant pas d'adjuvant, cette couleur vraiment terre.
Des murs d'école en terre crue. L'idée a d'abord suscité des réactions dubitatives, reconnaît le maire Patrick Jarry.
Nos techniciens étaient très réservés. Quand il pleut, il se passe quoi ? C'est peut-être la maison des trois petits cochons.
Le béton n'a pas disparu, mais il y en a moins. Le contour du mur reste en béton et au milieu, le remplissage est en terre crue. Pour un bien meilleur bilan carbone, explique le maire de Nanterre.
Dans le béton, il y a du ciment et pour faire du ciment, il faut beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Et donc le béton est un matériau qui produit beaucoup de CO2. Donc là, évidemment, moins, il n'y en a pas, parce que qu'est-ce que c'est la terre crue ? Ben, ça ne chauffe pas. C'est un matériel qui est inépuisable, puisque c'est la terre. Il faut évidemment de la terre qui soit pas du tout polluée, elle vient de Beauvais.
Reste à changer les habitudes des enfants et des adultes qui vont fréquenter cette école. Avec des murs en terre crue, il va falloir trouver des alternatives pour l'affichage, le nettoyage et apprendre aux petites mains à ne pas gratter la surface.
Sandy Dauphin dans cette école écolo qui est également dotée de panneaux solaires chauffés au bois et isolés avec de la laine de bois, équipée aussi d'une ventilation naturelle. Ce sont des mots dont on parle peu dans le milieu sportif, mis en lumière par un ancien rugbyman, Sébastien Bouaille, qui dénonce depuis longtemps les violences sexuelles et le bizutage parfois ravageur dans les équipes et les vestiaires. Il entame une tournée nationale pour briser ses tabous. Fanny Lechevestrier l'a suivi devant 200 jeunes champions au CREPS d'Île-de-France, le centre régional de la performance sportive.
Moi, j'ai été violé de l'âge de 11 ans et demi à 16 ans.
C'est ainsi que Sébastien Bouaille débute chacune de ses interventions. Des mots durs qui captent immédiatement l'attention et permettent de déclencher l'échange sur les violences sexuelles, le harcèlement ou encore le bizutage fréquent dans les centres sportifs.
J'ai reçu des moqueries, j'ai laissé aller pendant quelques semaines et du coup, ça m'a fait rater des sélections importantes.
La salle applaudit ce jeune archer qui ose prendre la parole. Le dialogue se poursuit sur les abus sexuels. 7% des athlètes en France ont déjà été victimes d'agressions sexuelles. Les vestiaires, les douches, le sport est un terrain propice, explique l'ancien rugbyman.
Dans le rugby, on voit encore aujourd'hui des éducateurs qui se douchent avec les gamins. Moi, mon entraîneur, il se douchait avec nous quand on était petits. Mais ça se fait encore aujourd'hui. Donc, c'est des pratiques ça, qui ne sont plus acceptables.
Changer les comportements, faire évoluer les regards aussi comme celui de Dinesh, 13 ans.
J'aurais pas su que des choses qu'on peut voir au quotidien peuvent être punies aussi gravement. Donc ça m'a appris beaucoup de choses.
Et pour Sébastien Bouaille, c'est ainsi que la parole va se libérer.
Il n'y a pas eu une fois après une intervention, je n'ai pas eu de victime. Que j'ai 10 personnes, 50, 200 comme là.
Et de prédire qu'il y aura bientôt un pic de révélation comme les États-Unis l'ont connu il y a 2 ans avec la gymnastique.
Et on attend un vaste plan de lutte contre les violences faites aux enfants présenté par le gouvernement courant octobre. Pour l'heure, c'est l'homophobie dans les stades de foot qui est sanctionnée. Le match Nice-Marseille hier soir a dû être interrompu plus de 10 minutes à cause de chants de supporters niçois. C'est Marseille qui a gagné 2-1 à la fin. Et puis la Ligue de football a décidé de suspendre une des tribunes du club de Nancy pour un match après le même genre d'incident à la mi-août. La classe à Venise maintenant. Catherine Deneuve et Juliette Binoche en ouverture de la Mostra, le grand festival italien du cinéma. Toutes les deux sont à l'affiche du dernier Kore-eda, réalisateur japonais, Palme d'Or à Cannes l'an dernier. Son film s'appelle La Vérité, tourné en France à l'automne. L'histoire, Corinne Pellissier, des retrouvailles entre une grande comédienne et sa fille.
Sans mes mémoires, c'est mon livre. J'ai le droit de choisir les épisodes de ma vie, non ?
On ne devient pas une icône du cinéma par hasard. Autant dire qu'à l'heure de publier ses mémoires, Fabienne d'Angeville n'a pas l'intention de s'embarrasser d'une vérité pas toujours très glamour. N'en déplaise à sa fille Loumire, fraîchement débarquée de New York, qui découvre avec stupeur le récit on ne peut plus édulcoré de ses souvenirs. Leurs retrouvailles seront tendues dans la maison familiale.
Moi, j'ai du mal à voir où est la vérité là-dedans. Attendre ma fille devant le portail de son école. Elle me racontait alors sa journée, dans les moindres détails, mais c'est jamais arrivé une seule fois.
Pour son premier film tourné en dehors du Japon, le réalisateur Kore-eda s'offre un casting très prestigieux. Catherine Deneuve et Juliette Binoche, réunies pour la première fois au cinéma, est sommée de réfléchir à la condition de la vie d'actrice.
Je comprends très bien cette femme, je comprends très bien le personnage. Ça me plaisait beaucoup de le jouer, mais ce personnage est très, très loin de moi.
Et puis ce qui se passait entre Catherine et moi finalement, cette rencontre-là, elle prend sa dimension parce que justement, il y a un film qui a été attendu tant d'années sans le savoir. Et pour ça, c'est vrai que le cinéma a sa magie.
Une mise en abîme réussie, mais l'occasion surtout d'explorer toujours plus loin le thème de la famille, si cher au réalisateur. Famille complexe, émouvante, tourmentée, dans un film souvent féroce, rempli de rancune et de mensonges, mais sans pathos et débordant d'humour. À la Mostra, Corinne Pellissier, France Inter.
La La vérité, signée Corée Eda, qu'on ne verra hélas pas en France avant le mois de janvier.
Merci Florence Paracuelos.